I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort ? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je m'appelle Mona. Avant, j'étais une jeune insouciante en voyage de jeunesse, fraîchement diplômée, éducatrice. Et depuis le 25 avril 2015, je suis une rescapée. Je m'appelle Mona, j'ai 23 ans et je suis jeune diplômée, éducatrice spécialisée. Je commence par un contrat qui est très difficile avec des familles sans abri, donc il y a 100 personnes, il y a 30 enfants, il y a des nourrissons. Et mon contrat se termine quand la trêve hivernale se termine et tout le monde retourne à la rue. Moi, j'ai plus de travail, mais toutes les familles que j'ai accompagnées pendant des mois retournent à la rue avec des bébés, des enfants. Et moi, je suis complètement désespérée par rapport à cette réalité-là. Et je décide du jour au lendemain de partir en voyage. Donc je prends mes billets d'avion pour la Thaïlande pour le lendemain à 9h et je pars. Moi, je suis une jeune fille très effrontée, assez rebelle. Je suis dans un moment donné où je suis révoltée par la politique, par la façon dont les gens sont traités, par la façon dont les structures sociales sont financées. Je suis très engagée dans les associations et tous mes espoirs de jeune éducatrice spécialisée sont un peu en train de s'envoler en fumée par rapport à la réalité que je rencontre sur le terrain. Moi, j'ai grandi avec des parents artistes et engagés dans leur communauté. Mon père est directeur de MJC, ma mère est comédienne. Et j'ai grandi dans un milieu où on est très très ouvert, on a beaucoup voyagé, on est très en lien avec toutes sortes de types de populations et de communautés. Et je pars voyager très tôt toute seule. Je suis partie à 15 ans, un an aux États-Unis. Et j'ai commencé mon engagement associatif très tôt, en fait. Et je suis très, très perméable à toutes les injustices du monde depuis toute petite. C'est très présent en moi. Je suis très, très sensible. Et c'est depuis que je suis petite et que je sais parler, j'ai des projets, des grands projets sociaux, en fait. À 6 ans, je voulais avoir 100 enfants et m'occuper de tous les enfants du monde. Après, je voulais ouvrir des campings pour les sans-abri. Enfin, voilà. Quand je choisis mon orientation, je choisis faire éducateur spécialisé avec de grands espoirs dans cette profession. Je quitte à ce moment-là ma grande coloc avec tous mes amis et on part tous vers des vies plus ou moins professionnelles ou des projets. Et donc, je me retrouve en Thaïlande et je contacte des structures qui ont besoin de bénévoles et qui proposent de l'hébergement contre du travail. Et donc, je me retrouve en Thaïlande comme ça à 23 ans. Ce que je veux, c'est travailler avec des gens. Et donc, je rejoins une petite école tout au nord, dans les rizières. Et on me propose de faire des cours d'anglais pour des enfants. Et le premier jour de cette expérience-là, je rencontre Catherine, qui est à ce moment-là aussi prof d'anglais dans cette école-là. Et je tombe amoureuse en 3 secondes de cette femme qui vient de rentrer dans ma classe. C'est un coup de foudre qui est totalement inattendu parce que j'ai jamais été en relation avec une femme. Et c'est un coup de foudre immédiat, indescriptible. J'ai jamais ressenti ça et je sais à ce moment-là, quand elle rentre, quelque chose qui va se passer avec elle. Elle rentre avec son ukulélé et elle chante une chanson de Pink Martini qui s'appelle Splendor in the Grass. Et voilà, et c'est tout, c'est indescriptible. C'est une Allemande, une grande blonde aux cheveux courts avec ses grandes lunettes rouges. Elle est habillée n'importe comment. Elle, voilà, on voit qu'elle a voyagé depuis longtemps et elle est très très simple. Et elle chante toute la journée avec son ukulélé. Elle donne des cours aux enfants et elle est très légère. J'ai l'impression de la connaître déjà. C'est un coup de foudre réciproque, mais en fait, on va mettre beaucoup de temps à se l'avouer parce que moi, je reconnais pas tout de suite que c'est l'amour et elle non plus. On va mettre 6 mois en fait à s'en rendre compte. Et moi, je décide d'aller apprendre l'allemand. Donc, je pars en Allemagne et elle, elle part au Népal. On n'est pas encore ensemble, on gère chacune de notre côté ses sentiments mélangés et aussi cette vie impossible qu'on s'imagine, mais on n'est pas encore ensemble et c'est très compliqué en fait comme histoire. Parce que elle c'est une voyageuse au long terme, moi j'ai pas du tout envie d'être lesbienne. Et donc voilà, donc on part, on est dans le flou total, on se sépare comme ça et moi je rentre en France, elle va au Népal et on n'a pas de projet pour l'avenir ensemble. On se quitte sans savoir si on va se revoir, mais en même temps, moi, dans mon journal de voyage, j'écris « Un jour, elle portera mon enfant », et elle, dans son journal de voyage, elle écrit « Soit je la verrai plus jamais, soit je me marierai avec elle ». Donc, à l'intérieur, on sait que quelque chose va se passer, mais on se l'avoue pas forcément, quoi. On est un peu toutes les deux dans le déni. J'ai peur, moi, je trouve que la vie, c'était déjà assez compliqué. Je connais pas, à ce moment-là, de couple lesbien. Je me dis, non, ça va être beaucoup trop compliqué. Moi, je veux absolument des enfants. On n'est pas du tout à un moment donné où la PMA est légale en France. Ça me paraît totalement inaccessible. C'est une vie compliquée qui s'annonce et que j'ai pas envie de voir. Et à la fois, je peux pas ne pas penser à elle. Je peux pas me passer d'elle. Donc, c'est un grand mélange d'émotions à ce moment-là que je décode pas forcément. Moi, j'arrive en Allemagne, je continue ce système où je fais du bénévolat pour des petites assos, des petits endroits qui ont besoin d'aide. Donc, je me retrouve dans une ferme en Bavière et j'apprends l'allemand à fond. Et je sais que j'apprends l'allemand pour elle. Je continue à voyager. On s'écrit tous les jours, on s'écrit des longs mails. Je la trouve très compliquée, je la trouve très difficile à lire. Et en même temps, voilà, on est tout le temps en contact. Jusqu'à ce qu'elle me dise « Est-ce que tu voudrais pas me rejoindre au Népal ?» Et encore une fois, je prends mon billet d'avion, pareil, la veille pour le lendemain, et j'atterris à Katmandou. Et je décide d'y aller complètement à l'aveugle, sans savoir ce qui va se passer, et je prends un billet retour pour 4 mois plus tard. Et je décide de donner une vraie chance à cette histoire. Donc elle arrive, elle vient me chercher à l'aéroport, elle est toujours dans son style à elle, dans son monde, elle décide de venir me chercher à pied. Et donc on commence une épopée dans Katmandou pour aller là où elle habite, de 3 heures à pied avec mon gros sac à dos, et je me dis oh là là, mais cette histoire c'est mal barré. Et on arrive, donc elle vit avec des amis népalais à elle qui ont un petit atelier de couture avec que des femmes. Et qui vivent dans une petite pièce, elle vit là, et ils vont tous m'accueillir à bras ouverts, et je vais m'installer avec eux dans cette petite pièce et commencer à travailler avec eux pour les aider à développer cette activité-là. Et à ce moment-là, elle a décidé d'accepter ces émotions-là. Moi aussi, 4 jours après, on est ensemble. Et en fait, on est au Népal ensemble. On vit nos premiers mois d'histoire d'amour vraiment à Katmandou, et c'est à Katmandou qu'on construit notre histoire. Moi, là, je suis amoureuse à 200%, je le dis à tout le monde, on le dit même à nos amis népalais assez vite. On vit vraiment l'instant présent, la passion, voilà. Non, moi, j'ai plus du tout de doute et je sais que je suis avec la bonne personne au bon endroit et c'est merveilleux. C'est une vraie slow life, on se lève très très tôt le matin, on marche beaucoup, on va acheter des petits légumes aux petites dames qui vendent des légumes très tôt le matin dans les rues de Katmandou, on travaille pour l'atelier de son amie, on vit au jour le jour, on n'a pas de grands projets, on profite vraiment de chaque jour, on vit vraiment une vie au rythme népalais. Et voilà, puis il y a des amis qui décident de nous rejoindre pour partir en trek dans les montagnes de l'Himalaya. Et donc 3 mois plus tard, on prépare un grand trek, on décide de partir sans guide, ce qui est plus possible aujourd'hui, et on prépare un trek d'un mois à peu près dans les montagnes. On marche toute la journée, on n'est pas du tout connecté, à l'époque on n'a même pas de smartphone, on apprend petit à petit à parler népalais, on marche tous les jours et on fait plusieurs circuits, dont un qui est le Langtang, c'est assez magique, parfois on dort chez l'habitant. On va à un rythme très doux, s'il y a des gens qu'on rencontre, parfois on reste quelques jours chez eux. Et on revient de ce grand voyage avec un attachement très très profond au Népal et à cette culture, à cette langue. On est plus amoureuse que jamais. et on revient à Katmandou. Moi, j'ai un avion de prévu le 17 avril. Je sais que l'échéance se rapproche, mais ça me paraît absolument impossible de prendre cet avion, de quitter Catherine, de quitter ce pays. Et donc, on redescend pas de la montagne et je laisse passer cet avion avec grand bonheur de l'avoir raté. Et on continue un petit peu notre marche dans la montagne en sachant que j'ai plus de billets de retour. On retourne à Katmandou, on retrouve nos amis népalais et c'est des belles retrouvailles. Notre ami commence un nouveau projet dans un marché de créateurs et donc on décide de préparer ce marché avec elle. Ça va se passer le samedi 25 avril, donc tout le matin on prépare, on installe notre stand et toute la matinée on vend les produits de l'atelier de notre ami. On en parle, c'est un marché qui est fréquenté particulièrement par des expats. Donc on rencontre plein de gens qui habitent sur place, des Français ou des gens de toute nationalité, et c'est très bon enfant, c'est très chouette. À midi, on avait rendez-vous avec un Népalais, une personne qui a une maison d'enfants et qui accueille 30 enfants chez lui. Et un de ses enfants est parrainé par quelqu'un, une connaissance de mon amie qui est venue nous rendre visite, donc de ma grande amie Manon. Donc on a rendez-vous avec eux pour assister à leur compétition de danse. Et donc on décide, pour la première fois en 4 mois, d'avoir 2 projets différents avec Catherine. Donc je laisse Catherine au marché et moi je pars avec ma copine Manon pour aller voir cette compétition de danse avec les enfants. Donc on est un peu en avance. On décide de s'installer dans un café dont on a entendu parler parce que c'est un café qui est tenu par une équipe uniquement constituée de personnes malentendantes. Et donc nous, on est dans notre monde d'éducateur spécialisé, on trouve ça génial. Il est 11h56 et la table se met à trembler. Et les deux qui sont avec moi me regardent en disant « Mona, mais arrête de faire trembler la table ». Et là, je comprends pas. La table se met à trembler de plus en plus fort. Et là, le mur tremble. Et moi, dans ma tête, ça connecte assez tard, mais je dis « tremblement de terre ». Et à ce moment-là, à ce mot prononcé, c'est la panique totale. Moi, mon réflexe, c'est d'essayer de me cacher sous une table. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous a appris. S'il y a un tremblement de terre, il faut se protéger sous une table. Mais les tables, elles volent. Tous les verres du bar se mettent à voler. C'est absolument pas possible de se cacher sous une table. Et là, il y a toute l'équipe du café qui nous disent « Mais venez, venez avec nous ». Enfin, en langue des signes, ils nous disent « Venez, il faut sortir ». On sort, on les suit. C'est très silencieux ce moment, déjà parce qu'il n'y a que nous qui communiquons avec un langage parlé dans ce café. Il n'y a pas d'autres clients et toute l'équipe se parle en langue des signes. Et on décide de les suivre, on sort dehors, on est sur un grand rond-point. On traverse la route et on se réfugie sur le rond-point. Et on traverse, il y a tout le monde qui tombe, il y a les voitures qui continuent à rouler, qui s'arrêtent, il y a des motos qui tombent. C'est vraiment le chaos, c'est très très fort. C'est un tremblement de terre qui a été évalué à 8.1 sur l'échelle de Richter. C'est très 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 fort. Et on se retrouve sur le rond-point et on est un peu choqués. Et à la fois, moi j'ai pas peur du tout parce que j'ai pas du tout réalisé, c'est pas monté au cerveau du tout. Et je vois ma copine Manon qui commence à paniquer, elle est un peu claustro et qui commence à paniquer. Et moi j'ai pas peur. Il y a de plus en plus de monde qui commence à arriver sur le rond-point et il y a des secousses qui arrivent très régulièrement. Puis on entend des bruits d'effondrement, on entend des très gros bruits qui nous paraissent être nouveaux, enfin qu'on peut pas savoir ce que c'est, on comprend rien en fait. Et on commence à penser que c'est grave quand l'hôpital qui est à côté commence à arriver avec des patients dans des situations critiques et à allonger tous les patients de l'hôpital sur le rond-point à côté de nous. On se relaie un peu pour porter les perfusions, pour que les gens puissent avoir leurs médicaments. Et on est très très nombreux maintenant sur le rond-point, ça devient très serré. Et à la fois, on est complètement naïve, nous, on est complètement insouciante. On se rend pas compte que ce qui vient de se passer, c'est grave. À un moment donné, il y a un des serveurs du café qui nous dit, en langue des signes, c'est ce qu'on comprend le mieux d'ailleurs, parce que le Népalais, on comprend rien, mais lui, il nous dit avec des gestes, la tour est tombée, puis il nous fait le signe que tout le monde est mort, quoi. Et là, je comprends que c'est une catastrophe, je me dis, bon voilà, il y a 300 morts, et que c'est une catastrophe absolue, et je réalise pas du tout l'ampleur de tout le reste. À ce moment-là, il y a un énorme mouvement de foule, et les gens commencent à crier « Tiger, Tiger, le tigre !» Et en fait, on est devant le zoo et la cage du tigre s'est effondrée. Et le zoo est sorti et les gens sont en panique totale. Et il y a un immense mouvement de foule qui est en fait très très dangereux parce que les gens se marchent dessus pour échapper au tigre. Et nous, on décide de suivre les gens. On se retrouve dans le hall d'un immeuble en espérant ne pas croiser le tigre. Et en fait, à ce moment-là, très vite, il y a une nouvelle secousse. Et l'immeuble tremble comme une feuille. On se dit, mais peut-être que le tigre, c'est moins dangereux que de se prendre un immeuble effondré sur la tête. Donc on ressort. Alors là, c'est la panique totale. Là, tout le monde crie. Les gens ont compris beaucoup plus vite que nous ce qui se passait. Donc, la nuit va tomber. Moi, j'ai aucune nouvelle de Catherine et c'est insupportable pour moi. On a passé 4 mois ensemble sans se séparer d'une seconde. En fait, tous les gens qui sont autour de nous sont très angoissés pour leurs proches parce que personne ne peut se contacter. Donc, on se met en route. Et là, sur notre route, on voit plein d'immeubles effondrés. Tous les fils électriques sont tombés. Plein de choses qui vont pas, mais ça connecte toujours pas dans notre cerveau, quoi. Je réalise pas du tout que ce qui vient de se passer, c'est gravissime. Et donc on marche, il y a même à un moment donné, on passe sur un pont qui est complètement fendu en deux, et je me pose à aucun moment la question de savoir si c'est ok de marcher sur ce pont. Juste, on marche, ça prend du temps parce que c'est loin. Et là, je sais pas par quel miracle, on tombe sur Catherine, en fait, qui nous attendait, qui nous cherchait. Et on la suit, ils se sont installés dans les jardins de la maison du Premier ministre, avec des tonnes de gens. Parce qu'il y avait une conférence ce jour-là, et du coup, il y a des tentes, et tout le monde commence à s'installer sous les tentes, et à se préparer à dormir là. Les gens arrivent par centaines et par milliers, enfin, ça se transforme en un très grand camp de réfugiés. Et nous, on commence à pouvoir appeler nos familles. Et donc, il y a mes parents qui appellent, qui sont en panique totale, et moi, je comprends pas pourquoi. Je suis en état de choc, en fait, mais je le sais pas encore. Et je leur dis, mais tout va bien, il n'y a aucune raison de pleurer, tout va bien, on va dormir là, on est en sécurité. Eux, ils savent tout parce qu'ils ont BFM TV qui tourne en boucle et ils ont toutes les images des destructions, de la ville, des blessés, des opérations de secours, que moi j'ai pas en fait. Moi j'ai vu des ruines, mais j'ai pas du tout fait le lien et je sais pas que c'est grave autant que ça. Et je réalise pas non plus que ces gens-là qui sont là, ils ont tous perdu leur maison et que c'est pour ça qu'ils sont là. Et donc, on va pour dormir là, il pleut super fort, on est trempés, et le lendemain matin, il y a les journaux qui arrivent, et donc on lit les journaux, et là, on réalise qu'il y a eu beaucoup de morts. Au départ, il y a 2000 morts, et les chiffres vont monter au fur et à mesure des 3 jours qu'on va passer là, jusqu'à 9000 morts, en fait, dans un périmètre assez restreint autour de nous. Et on apprend surtout que le Langtang, là où on était quelques jours auparavant, a complètement disparu, qu'il y a un énorme pan de montagne qui a recouvert l'entièreté du village et qu'il y a 3 survivants sur les centaines et les centaines de personnes qu'il y avait là-haut. Le deuxième jour, on apprend qu'ils font un appel au sang pour sauver tous les blessés. Et donc nous, on est en pleine forme, on n'a pas une égratignure, on se dit bah, « très bien, on va aller donner notre sang ». On rentre dans l'hôpital américain et on dit voilà, on est dispo pour donner notre sang. Et là, dans l'hôpital américain, il y a une jeune fille, toute jeune, enfin qui a notre âge en fait, une européenne qui est couverte de sang et qui est en panique, qui est en train de pleurer, de trembler. Elle est toute seule sur un brancard au milieu de tous les autres brancards. Et moi, je vais la voir et je lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que j'ai quelqu'un à prévenir pour toi que tu vas bien? Enfin, que tu es vivante? Et elle dit non, mais mon copain est resté sur le camp de base et j'attends des nouvelles de lui. Et moi, je viens de lire qu'il y a eu une grande avalanche qui a recouvert le camp de base et qu'il n'y a pas de survivants. Je réalise à ce moment-là qu'il y a vraiment un problème, quoi. Je commence à réaliser qu'on a eu de la chance, mais je suis toujours dans le déni. Et je sais pas quoi lui répondre à cette fille et je la laisse comme ça et je lui dis courage et je pars. Et je lui dis absolument pas que certainement son copain a pas survécu. Et il commence à avoir une épidémie de... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, il y a une maladie qui est là à cause du manque d'hygiène. Et on manque d'eau aussi et on commence à se dire il faut qu'on parte. Et donc nos amis népalais disent bah ok, on a qu'à aller au village. Eux ils sont en train de construire un nouvel atelier dans leur village, et donc on se met à partir dans leur village et on se dit qu'on dormira là-bas dans un champ ou sur le bâtiment en construction et qu'on sera peut-être plus en sécurité, en tout cas loin de la foule et de l'absence de sanitaires qui nous menaçaient un peu. Là, mes parents nous contactent et disent « vous inquiétez pas, il y a un avion de rapatriement qui va venir vous chercher et donc il n'y a pas de problème, demain vous pouvez venir à l'avion ». Donc on dit ok, on va dans le village, et là on prend un taxi, en fait il y a encore des taxis, et on traverse Katmandou en voiture, et là c'est une scène de chaos quoi, beaucoup plus importante que de ce qu'on a vu là, quelques jours auparavant, et on voit des opérations de secours qui sont encore à l'œuvre, on voit des rues entières qui sont recouvertes de briques, parce qu'il y a des immeubles qui sont tombés tous au même endroit, et ça fait des immensissimes tas de briques, on voit des immeubles complètement détruits, on voit plein de gens dans la rue qui errent un peu, c'est assez silencieux. Et on arrive au village, et c'est une petite route en terre, avec des maisons de part et d'autre, et il y a une maison sur deux qui est à terre. Et là, on commence un peu à réaliser, mais pas encore, et on décide de dormir dans un champ. Il faut savoir que tout ce temps-là, il y a encore des secousses, il y a même eu un deuxième tremblement de terre pendant qu'on était au camp de réfugiés, et il y a encore des secousses quasiment permanentes, et à chaque fois qu'il y a des secousses, il y a des chiens qui aboient très fort, et puis après qui deviennent complètement silencieux, il y a la secousse, il y a les gens qui crient, parce qu'à chaque secousse, il y a des maisons qui continuent de se détruire, en fait. Donc ça fait encore des bruits sourds d'effondrement. On comprend qu'on peut pas avoir confiance en la terre qu'il y a sous nos pieds, quoi. On comprend que partout où on est potentiellement en danger, mais on réalise toujours pas. Donc on s'installe pour passer notre première nuit, on s'installe dans des herbes hautes, mouillées, et on dort là, et moi, en pleine nuit, ça commence à me frapper que j'ai peur, en fait. Et là, on se met à pleurer. On est plusieurs à se mettre à pleurer dans notre champ, là, dans la nuit, et on commence à avoir peur. Et le lendemain, on va à l'aéroport, il y a l'avion qui est là, et il y a certains d'entre nous qui le prennent, et nous, on décide de pas le prendre. Voilà. C'est impossible pour moi de monter dans cet avion, et c'est impossible pour Catherine. Pour certaines personnes qui sont avec nous, c'est impossible. C'est impossible de monter dans cet avion parce que on va bien, qu'on est valide et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas notre part. Et même, c'est impossible de partir avec cette histoire qui n'est pas finie. Et de se dire, bah moi, je vais rentrer chez moi, je vais avoir un bon repas chaud et un toit et une maison qui ne tremble pas dans 24 heures. Et vous, nos amis népalais sont bloqués là, ont aucune possibilité de sortie, aucune issue. C'est pas possible. En ce moment-là, ce qui nous donne de la force, c'est d'être unis, et se séparer, c'est pas gérable. Et je pense, heureusement qu'on n'a pas pris cet avion, parce qu'on n'aurait pas pu gérer, je pense, psychologiquement, la culpabilité à ce moment-là. Et on se dit, ok, mais à ce moment-là, maintenant, il faut agir, il faut faire ce qu'on peut. Et on commence à aller à la rencontre des gens du village. Et les gens commencent à nous raconter notre histoire. Et on trouve d'abord une femme qui a le bras complètement déchiqueté et qui est assise là, à côté des ruines de sa maison, et qui n'a pas bougé. Ça fait quand même 4 jours que le premier tremblement de terre a eu lieu. Et elle n'a pas bougé. Elle est là avec son fils qui, lui, a le genou blessé. Et ils sont assis et ils attendent... dans le désespoir total, quoi. Ça, c'est la première famille qu'on rencontre. Ils sont sans abri. Ça veut dire qu'ils ont passé tout ce temps sous la pluie avec cette blessure. Voilà. Juste à côté, il y a eu un décès. On continue notre chemin et là, on rencontre une autre famille qui dit, bah voilà, nos jumeaux sont décédés là, sous ces ruines. Et là, je me rends compte que je ressens rien. Quand elle me dit cette phrase, ça me fait aucune émotion. Et je me dis, il y a un problème, c'est pas possible, je suis devenue un monstre, en fait. Je ressens rien du tout. Et je rentre avec ça et je me dis, mais... voilà, je viens de passer devant potentiellement le cadavre de 2 enfants et moi, je ressens pas. Et on continue et on rencontre plein d'autres familles et on entend des récits d'enfants qui sont décédés, de parents qui sont décédés, plein d'histoires comme ça. Et en fait, c'est presque trop pour nous à entendre et à la fois, moi, je suis comme vidée, quoi. Et ce jour-là, j'apprends aussi que je suis admise aux oraux de Sciences Po. J'ai passé le concours Sciences Po pour entrer en master Sciences Po. Et je me dis, ben voilà, soit je rentre maintenant et je passe mes oraux de Sciences Po, soit je reste. Et j'ai ma tante au téléphone à ce moment-là qui me dit, tu sais qu'on est là, hein. Vous nous donnez le feu vert et dès que vous avez besoin d'aide, on sera là, on va faire une chaîne de solidarité pour vous. Et moi, je dis, mais en fait, on n'a pas besoin d'aide. Et le soir, il y a toutes ces histoires qui défilent dans ma tête et toutes ces familles, ces images, ces choses, et ça commence à faire son chemin. Et là, je m'effondre totalement et je réalise en fait tout ce qui vient de se passer. je réalise qu'on a beaucoup de chance, qu'on a échappé belle, et qu'il y a des gens autour de nous qui ont pas eu du tout eu cette chance. Et voilà. Et donc, on fait une sorte de, pas de réunion, hein, juste on discute et on dit, OK, ben, on va mettre un plan en place et on décide la première urgence, c'est que ces gens, ils aient à manger, parce que les gens, ils sont restés un peu hagards comme ça sur leurs ruines et ils ont pas trop bougé. On commence à aller vraiment à stratégiquement voir des familles dans des coins du village, prendre des noms, des nombres de personnes, des besoins, faire des listes et on repart, on va chercher des colis, on fait des colis spécifiques pour les familles et on commence à s'organiser comme ça. On fait une semaine comme ça, en fait, à dormir dehors ou sur le toit de la maison en construction et à préparer des colis alimentaires et d'hygiène maintenant, parce que ça commence à devenir important aussi de pouvoir avoir un minimum d'hygiène. Et on va de plus en plus loin, dans les endroits les plus reculés. On voit les camions arriver, les camions d'aide du gouvernement ou les camions chinois qui arrivent et qui passent le long des routes et qui donnent de la nourriture aux gens qui sont au bord des routes. Mais en fait, les gens qui sont au bord du route, c'est les gens les plus aisés. C'est les gens qui, bien sûr, ils ont vécu l'enfer aussi, et voilà, mais c'est les pauvres, ils sont pas au bord des routes. Et on commence à comprendre ça, donc on va de plus en plus loin des routes, sur les petits chemins, rencontrer les gens, recenser les besoins, faire des colis alimentaires. Et la promesse de ma tante et de mes parents de nous aider commence à marcher, et ils mobilisent tout leur réseau. Et on commence à avoir des dons de gens qui arrivent directement sur mon compte et on va retirer les sous, on achète de la nourriture, on rentre au village, on distribue aux familles et ça devient un peu automatique. Au départ, on a 300 euros, on trouve ça énorme. Une semaine plus tard, on avait 4000 euros et on fait tout ce qu'on peut. Ça, c'est la première étape de l'après-séisme. J'ai réalisé que on a eu beaucoup de chance, qu'on avait survécu et que si on était là, c'était peut-être pas par hasard et qu'on avait un pouvoir d'agir là, présent. Et une semaine se passe comme ça et ça tremble tout le temps, tous les jours. On est en hypervigilance en permanence, la nuit, le jour, parce que dès que ça tremble, il faut sortir de là où on est. Donc on stocke tout ce qu'on a dans un sous-sol d'un bâtiment en construction, le bâtiment de nos amis. Donc c'est juste un sous-sol, on dort tous les uns à côté des autres, on est une quinzaine, et toute la journée, on fait vraiment, vraiment tout ce qu'on peut. Et on commence à avoir de l'espoir, et on se dit, voilà, maintenant il faut que les gens ils se construisent des habits plus solides que juste ces bâches qui commencent à se trouer, à s'envoler au moindre coup de vent. Et là, notre ami népalais avec qui on avait rendez-vous pendant le séisme nous contacte et nous dit, bah moi ça a été la catastrophe dans mon village, est-ce que on peut faire quelque chose ensemble? Et on décide de partir dans son village qui est à 7-8 heures de route à flanc de falaise, voilà, avec des tonnes d'outils pour permettre aux gens de reconstruire leurs abris avec du bambou ou avec ce qu'ils trouvent en fait. C'est un village plutôt tropical au sud de Katmandou et on distribue les camions et arrivé au bout, pour nous c'est mission accomplie et ça y est c'est la fin quoi. Pour nous c'est la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau, les gens vont se construire des abris plus solides. Et c'est derrière nous, quoi, le séisme. Et là, en fait, on est le 12 mai, et il y a le troisième séisme qui nous fauche au moment où on était en train de célébrer. Et les hommes autour de nous s'effondrent en larmes par terre. Et moi, je suis encore une fois sans Catherine. C'est encore une journée où on a décidé de faire deux projets différents. Donc je suis avec ma copine Manon et Catherine, et avec nos amis népalais. Et c'est arrivé que deux fois dans nos 6 mois au Népal, et c'était deux fois les tremblements de terre. Et là, avec Manon, on sait plus quoi penser, parce qu'on pensait que ça y est, c'était la célébration, c'était la fin du cauchemar, et c'est en fait le cauchemar qui s'installe. Et on voit autour de nous que les gens n'ont plus espoir, et là, nous, malheureusement, hein, on part en fou rire nerveux, absolument incontrôlable. Et c'est horrible parce qu'on est désespéré, on est brisé, mais on rit et on peut plus s'arrêter. Et là, avec nos amis des palais, on décide de reprendre la route. On sait qu'on est très loin de Katmandou et que la route est certainement pas praticable parce que c'est une toute petite route à flanc de falaise en terre et que déjà d'ordinaire, quand il y a pas de séisme, il y a des effondrements, des glissements de terrain permanents. J'ai aucune nouvelle de Catherine, encore une fois. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est quand même à chaque fois des circonstances quand même incroyables. Et donc, on rentre au village. Et là, on n'a plus d'idées. Là, on se dit, voilà, on veut pas continuer à vide, distribuer des colis d'urgence. Si l'urgence, c'est pour toujours, quoi. Du coup, on fait une réunion là et on demande aux gens qu'on a rencontrés, mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider quoi. Et les gens nous disent, ben on a besoin de travailler. On a perdu mon mari, on a perdu mes vaches, on a perdu ci ou ça, et il faut absolument pouvoir travailler. Et notre amie, elle a eu un atelier de couture, et on dit, bah peut-être qu'on peut donner du travail aux gens. Elle dit, oui, mais pour travailler, il faut savoir faire, quoi. Et là, on commence à se dire, ok, on va faire un programme de formation. Et on demande à des gens s'ils veulent bien parrainer des femmes qui ont tout perdu pour ce programme, pour qu'elles puissent apprendre un métier, puis après pouvoir travailler, parce que l'artisanat au Népal, c'est un des secteurs les plus employeurs. Et donc, on crée ce programme de formation avec les femmes qui travaillent déjà dans l'atelier, et où il y a de la couture, du tissage, de la broderie. Et voilà, il y a une vingtaine de femmes qui commencent à se former et à apprendre des compétences et à pouvoir avoir la perspective d'être embauchées après, là ou ailleurs, dans n'importe quel atelier. Nos visas arrivent à expiration en fait. Au Népal, on ne peut pas rester autant qu'on veut. Ça fait un peu plus d'un mois que le tremblement de terre a eu lieu. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu. Et on commence à se poser des questions de qu'est-ce qu'on va faire après en fait. Est-ce que ça y est, on rentre chez nous et c'est fini? Qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'il y a ce programme de formation qui arrive. Et on se fait la promesse, en fait, avec nos amis népalais et nos amis français, qu'on va pas les lâcher, en fait. Qu'on va faire tout ce qu'on peut. Donc, on rentre avec cette idée-là. On prend l'avion. C'est assez douloureux de partir. Donc, on prend l'avion début juin. Donc, ça fait plus d'un mois maintenant que le tremblement de terre a eu lieu. Et on rentre et on décide de créer une association parce que je peux pas garder ces dons sur mon compte en banque. On crée l'association Sambhava, avec l'idée de réfléchir aux meilleures possibilités pour continuer à avoir de l'espoir et à donner de l'espoir et à faire tout ce qui était possible. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner au Népal. Et on sait que pour retourner au Népal, il faudra qu'on attende le 1er janvier 2016 d'avoir le droit de refaire un visa. Catherine a en fait nulle part où aller, elle était en voyage depuis très longtemps et du coup elle rentre avec moi chez mes parents. Donc c'est à la fois un retour, un coming out, enfin, c'est plein de choses à la fois. Et on rentre, on est accueillis très chaleureusement par tous les gens qui ont suivi nos aventures de près. Nous, on est complètement déphasés parce qu'on n'a pas vécu la même histoire. Pour les gens qui nous accueillent, on est presque des miraculés. Alors que pour nous, on est tout l'inverse, on est les chanceuses. On est celles qui avons rien vécu, quoi, par rapport à tous ceux qui ont vécu l'enfer autour de nous. Donc c'est un peu décalé. Le programme de formation se met en place à distance. On trouve des parrains et marraines qui décident de soutenir ce projet. Les femmes se mettent à être formées. Et là, on reçoit un message de quelqu'un qu'on a rencontré pendant notre trek avant le tremblement de terre. Un hôte qui nous a accueillis et qui nous dit « Voilà, j'ai un problème avec mon neveu, il n'a plus rien. » Est-ce que vous seriez d'accord de l'aider pour aller à l'école ? Et dans nos têtes, on se dit, ok, on va faire ça, on va mettre cet enfant à l'école. Alors, il n'habite pas du tout dans un endroit où il y a une école, parce qu'il n'y a plus rien là où il habite. Donc, on se dit, il faut qu'on trouve une école partenaire avec un internat pour ce petit garçon. Et donc, on sait qu'on va retourner au Népal et qu'on va continuer. On fait des petites conférences dans des petits lieux. On rencontre les gens extraordinaires qui nous ont permis de faire ce qu'on a fait, parce qu'en fait, nous, toutes seules, on ne pouvait rien faire. Et on raconte notre histoire. Et lors d'une conférence, on rencontre une fille qui vient nous voir et qui dit « Mais moi, je connais une façon de reconstruire des abris antisismiques. Et si vous voulez, je fais une formation au Maroc. Vous pouvez participer et vous pouvez apprendre cette technique-là, qui s'appelle le super adobe. » Et on se dit « Ok, ben on fait ça. » Donc on travaille, on met les sous de côté et on va au Maroc. Et on fait ce stage et on apprend à construire donc des dômes antisismique avec du matériel qu'on trouve sur place. On apprend ça et on part avec cette compétence-là au Népal sans trop savoir ce qu'on va en faire. On arrive dans un Népal en février, en ruine. On est là pour 5 mois, donc pour tout ce qu'on peut, c'est-à-dire la validité de notre visa. Et on arrive dans un Népal où les gens se sont stabilisés dans leur misère, c'est-à-dire que les gens vivent encore dans leurs abris en tôle, en bambou. Il y a eu assez peu de reconstruction. et les gens travaillent pas. Il y a eu une grosse recrudescence de l'alcoolisme parce que les gens dans leur misère se sont un peu noyés dans l'alcool. Et là, au village où on a vécu après le tremblement de terre, c'est vraiment la misère, quoi. Et on rencontre beaucoup d'enfants qui errent dans les ruelles, dans les chemins, qui sont pas retournés à l'école parce que pour aller à l'école, il faut quand même avoir au minimum de quoi acheter l'uniforme et les livres. Et là, on est un peu sous le choc. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui mangent pas à leur faim. Et on commence à scolariser des enfants et à faire en sorte qu'ils mangent 2 à 3 fois par jour à l'école. Et on trouve des gens qui sont d'accord de parrainer les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Et on commence en fait comme ça un programme de scolarisation des enfants du village. Il y a toute une dynamique qui se met en place. Et on a quand même dans les pattes cette formation de dôme antisismique. Et donc on retourne au village de notre ami avec qui on avait distribué les outils. Et on demande s'il y a quelqu'un qui voudrait un dôme antisismique pour qu'on puisse en profiter pour apprendre aux gens cette technique-là. Et là, on commence un chantier. On fait un appel aux volontaires, à des gens qui seraient d'accord de venir nous aider. Donc on est à 8 heures de route de Katmandou et il y a des gens qui viennent nous aider. Et on passe un mois là, dans une famille d'accueil, à construire ce dôme. Et c'est pendant ce temps-là qu'on va apprendre d'ailleurs à parler népalais un maximum. Et qu'on va rencontrer un enfant qui va à nouveau changer notre vie pour toujours. Cette petite fille, c'est notre deuxième déflagration. Et cette rencontre va faire qu'on s'engage pour très très longtemps, au moins pour 20 ans. Un jour, pendant que je marchais vers le chantier, je vois une petite fille. À l'école du village, je vois cette petite fille qui a un petit débardeur blanc tout sale et sinon elle est toute nue. Juste je croise son regard et ça me glace complètement, elle me bouleverse cette petite fille et je sais pas pourquoi. Et donc je vais au chantier et voilà, et je la recroise pas spécialement. Et là je dis à la personne qui nous accueille, je dis bon voilà, on a amené avec nous des vêtements, on avait ma voisine qui m'avait donné des vêtements d'enfant. S'il y a une petite fille qui peut rentrer dedans et qui aurait besoin de vêtements, ce serait avec plaisir qu'on lui donnera. Et là, elle dit, oui, je connais la petite fille la plus pauvre du village. Et elle revient avec cette petite fille-là. Et on lui donne les habits et elle repart avec une adolescente qui était sa tante par alliance. Et elle repart. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose avec cette petite fille, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va pas. Et on la recroise plus, cette gamine-là, on la recroise plus. Et le chantier avance, et c'est assez long, c'est très très physique, on travaille du lever de soleil au coucher de soleil. Et un jour, il pleut des cordes, alors on se réfugie dans le petit café du village. Faut savoir, c'est un tout petit village qui avait jamais vu de blanc, enfin, très peu blanc avant, quoi. Je veux dire, on est dans un endroit assez reculé au Népal. Donc voilà, tout le monde sait qui on est. On s'arrête dans un petit café pour s'abriter. Et là, je vois sous la pluie, un petit garçon qui reste sous la pluie battante dehors. Et on décide de le prendre pour le mettre à l'abri. Et là, je reconnais une petite tache de naissance sur sa joue. Et je me rends compte que c'est la même petite fille à qui on a donné les vêtements, qui a juste plus de cheveux, quoi. Et elle était complètement chauve, elle a un gros ventre d'enfant malnutri, et on lui achète à manger, elle dévore ça, et on se demande, mais à qui, où est sa famille à cet enfant? Et les gens me disent, non, mais elle rentre toute seule. C'est une toute petite fille, hein. C'est une petite fille, elle fait 9 kilos, c'est une toute, toute petite fille, elle est haute comme 3 pommes. Et je me dis, mais comment ça, elle rentre toute seule, la route, très vite, elle est à flanc de falaise, il pleut des cordes, je vois pas comment c'est possible qu'elle rentre toute seule. Et donc, on décide de la ramener chez elle. Donc, je la mets sur mon dos dans un foulard, elle est toute petite, et je la ramène chez elle. Et on arrive chez elle et on se rend compte que personne l'attendait déjà, et on se rend compte aussi que elle a été laissée chez des oncles et sa grand-mère, mais sa mère est partie à la naissance, que son père est parti aussi, et que quelqu'un d'assez dangereux et qu'il y a personne pour elle, quoi. Fait traduire pas mal de choses de ce que les gens disent par un site qui nous accompagnait, et on comprend que ça va pas du tout. Et là, on sait pas quoi faire, on rentre chez nous, on la laisse là, et elle se met à hurler qu'on parte, quoi, comme si elle nous appelait vraiment, vraiment, vraiment à l'aide. Et là, ça fâche vraiment les gens autour d'elle, qui sont tous très alcoolisés, et ils la prennent un peu, ils la jettent vers nous, ils disent « Non mais prenez-la, en gros ». Nous, on sait pas du tout quoi faire, on est un peu perdu. On décide de l'emmener pour lui donner à manger et pour la coucher à l'abri. Et on dit, ok, on la ramènera à l'école le lendemain, puis elle rentrera chez elle comme elle fait d'habitude, quoi. Donc on la nourrit et elle a mangé comme 4 adultes, quoi. Ce qui l'a rendue très très malade. Et on la ramène à l'école le lendemain et on la laisse et on est perdu. On sait pas quoi faire. Et on rentre chez nous et on habite quand même à une demi-heure de marche. Et quelques heures plus tard, on entend une petite voix. Et c'était elle qui s'était enfuie de l'école sans que personne remarque et qui avait retrouvé la maison. Et là, on se dit, ok, il y a quelque chose à faire. On commence à enquêter, on va voir la police. On dit, mais il y a un enfant qui est très malnutri, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la police dit, on peut rien faire. Son petit frère, il vient de mourir de maltraitance. Et je dis, comment ça, on peut rien faire? Mais c'est pas possible. Et ils nous disent, si vous voulez, si vous avez une idée, on va vous aider. Et donc on se dit, ok, il faut qu'on retrouve absolument son père pour savoir s'il est d'accord qu'on emmène cette petite fille pour la mettre à l'école, dans une famille d'accueil ou en internat. Et on décide de partir à Katmandou pour essayer de retrouver son père. Et ça va nous prendre 3 semaines. On va lui dire ça, on va lui dire, on revient et on va essayer de t'aider, quoi. Et le jour où on va la voir pour lui dire ça, elle est blessée, elle a un énorme, énorme bosse sur le visage, elle a le visage qui est blessé. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si elle a été frappée ou si elle est tombée. Et elle est endormie sur un tas de compost, à même le sol, parce que dans sa maison, il n'y avait pas de lit. On lui dit, on va revenir t'aider. Et on rentre à Katmandou, et avec l'aide de la police et des gens du village, on cherche son père. Et on le retrouve et on lui dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on scolarise la petite? Et lui, on comprend qu'il a eu beaucoup d'enfants avec plein de femmes différentes, que c'est pas vraiment son problème, et qu'il s'en fiche un peu, et on fait ce qu'on veut, quoi. Et donc, on retourne au village pour aller la chercher. Elle nous attendait, en fait, elle savait qu'on allait arriver. Et on lui demande, est-ce que t'as envie de venir? Est-ce que t'as envie de venir à l'école à Katmandou? Et elle dit oui. Et on part. Et on arrive à Katmandou, et nous, on a très peu de temps avant de devoir partir parce que nos visas expirent, donc on la confie à nos amis en famille d'accueil, et elle commence l'école. Et arrivée dans cette famille, elle sait que c'est sa place, quoi. Mais la famille nous dit qu'on pourra pas la garder pour toujours, c'est en attendant de trouver une autre solution. Donc nous, on rentre cette fois en France avec cette épée d'Amoclès sur la tête, de dire, on a fait ça maintenant, c'est irréversible. On lui a fait cette promesse qu'on allait lui donner les conditions pour qu'elle puisse vivre et survivre. Il faut qu'on trouve une solution. Et on retourne donc au Népal dès qu'on peut, dès que nos visas soient, dès que c'est possible, et on retourne au Népal et on se retrouve dans cette famille et on sait que maintenant ça y est, elle peut plus rester là. Elle va mieux, elle va beaucoup mieux, elle a des cheveux, elle a mangé, elle nous a attendu tout ce temps. Et nous, on sait qu'il faut une solution. En attendant, on a beaucoup d'enfants qu'on a scolarisés à l'école, et parmi ces enfants-là, il y a des enfants dont les situations se sont dégradées. Il y a eu des enfants qui avaient un parent qui est décédé, des enfants qui se sont retrouvés à la rue pour faire de la mendicité. Et là, on est au pied du mur, en fait, et on cherche une maison pour les accueillir, et on trouve pas. On trouve pas des maisons où on sait qu'ils vont grandir bien. Et donc là, on décide de faire notre maison d'enfants, de créer une maison d'enfants, et d'embaucher des gens, et de créer une maison d'enfants qui soit une maison où ils puissent grandir bien, être aimés, jouer, aller dans une bonne école, enfin voilà. Et cette décision, elle va changer notre vie pour toujours, parce qu'à partir du moment où on dit à un enfant, t'auras plus jamais faim, tu seras plus jamais seul, tu es ici chez toi, et tu es ici chez toi pour toujours, et ça c'est ta famille, et c'est une décision qui vaut pour la vie en fait. Donc on branle bas de combat pour trouver une maison, pour retaper la maison, pour préparer, meubler. On a dessiné tous les meubles, on les a fait faire par des menuisiers. On a mis un mois très intense à installer cette maison et on a enfin une maison prête pour accueillir les enfants. Et ensuite, il faut trouver du personnel. On installe au départ 6 enfants. On fait une formation express de 2 semaines à notre personnel. On essaie de donner un maximum de confiance aux enfants qu'ils sont au bon endroit. Et on rentre chez nous encore. En France, avec une nouvelle énormissime responsabilité sur les épaules. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Maintenant, on est à la tête d'une famille et on doit trouver de l'argent. On doit trouver beaucoup d'argent parce qu'on les met dans une très bonne école. On a un loyer à payer qui est cher. On a des salaires à payer. On a besoin de beaucoup d'argent. Et c'est vertigineux, en fait. Ce projet, il est vertigineux. Et à la fois, y a rien de plus rassurant pour nous que de savoir qu'ils sont en sécurité. Et on retourne au Népal dès qu'on le peut, encore une fois, encore pour 5 mois. On s'occupe un peu de l'éducation de nos enfants. C'est tous des enfants qui sont polytraumatisés et qui sont à la fois très, très, très contents d'être là. Donc, c'est des enfants qui vont mal et à la fois qui vont le mieux possible et qui investissent un maximum tout, quoi. C'est des enfants qui ont cartonné à l'école tout de suite, qui ont été très forts entre eux. On n'a jamais eu aucun geste de violence à la maison entre les enfants. Et ils sont très, très, très forts entre eux et on est très admiratifs de cet amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et c'est vrai que quand on rentre dans cette maison, c'est une maison qui est incroyable d'amour. Mais pour nous, c'est un souci énorme. Il faut qu'on trouve une équipe. Et au final, on va embaucher la cuisinière qui, elle, est remplie d'amour pour les enfants. Et on décide, OK, on va la former. Et ce sera, elle, notre responsable de la maison d'enfants. Et donc, on va former cette personne extraordinaire qui s'appelle Nima. Et on va pouvoir lui faire passer toutes nos valeurs et toute notre vision de l'éducation qui est quand même assez singulière par rapport au Népal. Et on veut qu'ils soient népalais, et on veut qu'ils aient la culture népalaise, mais on veut qu'ils grandissent aussi sans aucune violence, et avec beaucoup de place pour pouvoir s'épanouir et développer leur personnalité à eux. Et cette Nima, elle s'appelle, elle est extraordinaire, et elle va travailler main dans la main avec nous. Ça fait maintenant 7 ans que la maison d'enfants, elle existe. On a une grande, grande fratrie de 15 enfants. Et cette petite fille qui est à l'initiative de tout, elle a vraiment maintenant cette famille qui est très forte, c'est tous ses frères et sœurs. Et Nima s'est mariée, son mari maintenant travaille à la maison, ils ont fait un bébé. Et on a ce groupe d'enfants et cette famille, cette unité familiale qui est assez extraordinaire. Et je suis même pas sûre que ça existe ailleurs, quoi. Je suis même pas sûre qu'il y ait un endroit où il y ait des enfants qui soient venus ici pour survivre et pour changer de vie et qui se retrouvent à investir avec autant d'amour les gens avec qui ils vivent. Ce tremblement de terre qui était catastrophique et qui a changé la vie de tant de gens, nous, il a créé de toutes pièces notre chemin à nous. Et on se dit aujourd'hui que tous ces enfants qui grandissent avec nous, qui grandissent dans cette maison et pour qui ce lieu est si, si, si important, parce qu'il est là aussi grâce à ça, à ce lieu-là. Et je sais pas, j'ose même pas imaginer où ces enfants ils seraient, dans quel état ils seraient et quelle serait leur vie si ça avait pas existé. Alors ce tremblement de terre, il a marqué un tournant dans notre vie et ce tournant-là, il a été peut-être le plus important. Aujourd'hui, les enfants du Népal sont les gens les plus importants dans ma vie. Alors, ce sera jamais nos enfants, mais c'est notre famille, c'est les enfants qui feront toujours partie de notre vie. Dès qu'on a eu notre fils à nous, parce qu'ensuite, à un moment donné, on est rentré en Europe pour pouvoir faire un bébé, Catherine et moi. Et dès qu'il a eu 3 mois, on l'a amené au Népal pour qu'il puisse grandir avec ses frères et sœurs du bout du monde. Et ça fait partie de sa vie aussi. Aujourd'hui, on a scolarisé 44 enfants. On a 15 enfants à la maison d'enfants qui ont trouvé leur famille et leur maison pour toujours, qui sont pleins de rêves et de projets. On a notre aînée qui commence des études de droit et notre dernière qui a que 2 ans. Et aujourd'hui, je suis remplie d'amour et de confiance par rapport à tout ce qu'on a fait. Et on a dû beaucoup se battre pour en arriver là. Et ce sera encore du souci pour de très très longues années. Et voilà, sans Baba, c'est pas notre travail du tout. On travaille à côté, c'est un projet de vie. Et c'est un projet de vie qui est pour nous le plus beau qui nous soit jamais arrivé. Finalement, ce tremblement de terre, il nous a amené les plus belles personnes et les plus belles choses qui nous soient arrivées, quoi.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.